Nous te prions maintenant, Seigneur, pour que tu permettes que nos cœurs et nos esprits soient entièrement tournés vers toi, vers ta parole, vers ce que tu veux nous dire ce matin. Que nous ne soyons pas parasités par d'autres pensées, mais que nous puissions être à ton écoute et que ton esprit, Seigneur, nous donne de recevoir cette parole comme venant de toi, qu'elle nous mette en route, qu'elle nous dirige, qu'elle dirige nos regards vers toi. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, j'aimerais que nous démarrions et que nous vivions cette année avec cette certitude que tout est sous contrôle. La terre tourne, les saisons s'enchaînent, une année succède à une autre, pas par le fruit du hasard, comme on voudrait nous le faire croire, ni par chance, mais parce que Dieu est souverain. Et cette vérité-là doit être pour nous à la fois source de réconfort et de confiance, mais aussi porteuse de paix face à l'anxiété et d'espérance au milieu de ce monde qui, évidemment, ne va pas vers son mieux. Alors, c'est vrai, les humains sont de plus en plus nombreux. Pour certains, ils le sont trop nombreux. Quand on parvient à éradiquer une maladie, une autre prend sa place, voire la première revient revigorée. Les guerres de territoire qu'on pensait appartenir à l'histoire et au passé sont plus que jamais d'actualité. Et le climat semble de plus en plus déréglé. On nous matraque régulièrement de catastrophes écologiques plus graves les unes que les autres. Et pourtant, cette création appartient à Dieu. Il est clair que nous la gérons mal. Voilà, s'il faut faire un constat, ça sera celui-là. Nous la détruisons régulièrement. Mais pourtant, c'est Dieu qui a fixé les limites à toute chose, y compris à la fin de ce monde. Et il ne nous a rien caché de sa fin, du retour en gloire de son Fils et de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et donc, tout est sous contrôle. Alors, je parle de la fin, mais pourtant, ce matin, je vous invite à repartir au tout début et à ouvrir nos Bibles au commencement du livre de la Genèse. Je vais lire au premier verset du premier chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la partie sèche terre et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et ayant en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants, et que sur la terre des oiseaux volent sous l'étendue céleste. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit, « Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. » À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ce texte alors que c'est le jour de l'Épiphanie et que d'habitude on lit les passages sur les mages. J'ai choisi ce texte pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouvais intéressant qu'en début d'année, nous puissions redémarrer avec le début de la Bible. La deuxième, c'est que je pense nécessaire qu'on se remette en tête des vérités importantes et que cela nous pousse en premier lieu à l'adoration, pas forcément à décortiquer les moindres choses, mais surtout à reconnaître en Dieu celui qui est merveilleux. La troisième raison, c'est parce que la semaine prochaine, qui est la journée d'église, on fait la fiche sur la création, et si on a le temps, sur la chute. Donc j'ai pris un peu d'avance. Voilà. Par ce récit de la création, Dieu nous parle de lui. Il ne nous fait pas un récit scientifique dans lequel il faudrait chercher des choses très précises et très détaillées. Il nous parle avant tout de lui. Et il ne nous dit pas tout, ni de lui, ni de ce qu'il a fait. Mais il nous livre l'essentiel de ce que nous avons besoin de savoir. Et ça, c'est souvent différent de ce que nous aimerions savoir, hein. Ce texte nous parle du Dieu créateur, tout-puissant, souverain, un en trois personnes, du Dieu d'amour et de bonté, du Dieu de providence et de libéralité, du Dieu de bénédiction et de générosité. Alors je vous invite ce matin à découvrir ensemble ce Dieu que nous aimons, que nous adorons et à qui nous sommes appelés à ressembler. Avant d'entrer dans chaque verset, je vous propose une brève architecture quand même de ce récit de la création, pour rappeler que les trois premiers jours, Dieu crée en mettant de l'ordre dans le chaos. Et les trois jours suivants, Dieu peuple ce qu'il a séparé. Il y a donc un temps pour séparer, ordonner, nommer, et un temps pour peupler. Hein, si on les met en parallèle, on a le premier jour, la séparation du jour et de la nuit. Le quatrième, Dieu va peupler le jour et la nuit avec le soleil, les étoiles, la lune. Deuxième jour, séparation des eaux d'en bas et d'en haut. Création le cinquième jour des poissons et des oiseaux. Troisième jour, séparation de la terre et de la mer. Et sixième jour, création des animaux et de l'humain. Voilà, ça c'est l'architecture. Le verbe créer, bara en hébreu, hein, je vous en ai parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps au moment de l'Avent. Ce verbe a toujours Dieu pour sujet. Et comme nous l'avons déjà évoqué donc un peu avant Noël, il s'agit d'une parole, d'un cri qui fait amener à l'existence. C'est une parole qui donne vie. Et en fait, il n'y a personne d'autre dans la Bible qui bara, qui crée dans ce sens-là, à part Dieu. Le verbe est au singulier alors que le sujet, Elohim, est au pluriel. Et alors là, quand on regarde l'hébreu dans le texte de la Genèse, on pourrait en parler pendant 3-4 heures hein, de ce récit, mais je suis obligée de faire un choix, donc je ne vais pas tout vous dire, mais il y a quand même quelques pépites qui sont intéressantes. Et dans cette histoire de verbe au singulier et de sujet au pluriel, on entrevoit déjà un des mystères de Dieu, à savoir le fait qu'il est un, mais aussi plusieurs personnes. Trois, hein, en l'occurrence. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Le mot « ciel », d'ailleurs, est aussi un pluriel, qui évoque les différents espaces célestes qui existent et dont la Bible nous parle régulièrement, hein, y compris dans le Nouveau Testament. Il y a le ciel qu'on voit, il y a le ciel espace, il y a le ciel demeure de Dieu. La terre était informe et vide, nous dit le texte. L'hébreu dit « tohu bohu ». C'est un mot qu'on a gardé en français parce qu'en fait, on ne sait pas bien le traduire. Hein. Tohu bohu. Et ça évoque quand même quelque chose de pas très sécurisant et de pas très ordonné. Et effectivement, l'acte créateur de Dieu vient en fait mettre de l'ordre dans le chaos, hein, comme on l'a dit, en séparant les éléments et puis peupler ce qui était vide. Donc, on a bien mettre de la forme dans ce qui est informe et peupler ce qui est vide. Informe et vide. La présence du souffle ou de l'esprit à la surface des eaux, des ténèbres, de l'abîme, a un aspect apaisant face au tumulte, rappelant que Dieu est là et qu'il veille, qu'il gère, et donc que tout est sous contrôle. Dieu n'est pas seulement présent, il parle aussi, ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement toute puissance et force, il est aussi souffle et murmure. Dieu crée par sa parole. Et le début de l'évangile de Jean nous dit que le Fils est la parole, le Verbe de Dieu. On est donc bien là en présence des trois personnes de la Trinité, si on veut un petit peu chercher, dès les premiers versets de la Genèse. Une autre interrogation qui se pose souvent, c'est la création de la lumière au premier jour, puisque le soleil, etc., ne sont créés qu'au quatrième. On se demande quelle est cette lumière du premier jour. Et cette lumière-là, en fait, est en quelque sorte le reflet de la gloire de Dieu, sa splendeur, sa présence dans la création. Ça peut nous faire penser au dernier chapitre d'Apocalypse, hein, Apocalypse 22, verset 5, où la gloire de Dieu éclaire la Jérusalem céleste et le texte nous dit « Ils n'auront plus besoin ni du soleil ni de la lune parce que la gloire de Dieu les éclaire ». Et effectivement, la présence de Dieu éclaire et chasse les ténèbres. Nous trouvons dans le livre des psaumes cette idée que la parole de Dieu est lumière sur notre sentier, par exemple. Et dans l'évangile, Jésus dit de lui-même « Je suis la lumière du monde ». Il est évident que ça n'est pas une lumière qui se calcule en lumène, hein, ou en luxe. Voilà, c'est une lumière de gloire. On peut aussi remarquer que quand le quatrième jour, Dieu peuple le jour et la nuit, il parle du temps et de l'utilité des luminaires pour justement compter ce temps. Ainsi, nous pouvons envisager que lors du premier jour, Dieu ait créé le temps. C'est une vérité qui nous rappelle que Dieu est hors du temps et de l'espace. Il les a créés l'un comme l'autre. Alors, c'est quelque chose de difficile à concevoir parce que notre intelligence à nous est incapable d'appréhender un non-temps ou un non-espace, puisque nous sommes dans le temps et l'espace. Mais ce qui est sûr, c'est que même si nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, ça nous amène à considérer le temps ainsi que tout le reste comme un don de Dieu. Et il me semble qu'en ce début d'année, c'est un élément à retenir, à garder, à chérir même. Ce rappel que le temps a été créé par Dieu et qu'il nous a été donné pour l'investir du mieux possible, pour y vivre, y travailler, y jouir, y aimer, etc. D'autant que notre perception du temps n'est pas statique, hein, elle dépend beaucoup de ce que nous vivons. Quand on s'ennuie, le temps paraît s'étirer, alors qu'il passe à toute allure quand on vit un bon moment, nous laissant presque frustrés de n'avoir pas vu le temps passer. Le temps existe pour celui qui en a conscience, en fait, c'est-à-dire l'être humain. Personne d'autre dans la création n'a la notion du temps qui passe, d'un avant, d'un après, n'est capable de conjuguer, entre guillemets, à part l'homme. Alors ça pose la question de qu'est-ce que nous allons faire de notre temps pour cette nouvelle année. Allons-nous être esclaves du temps, le vivre comme un fardeau, ou allons-nous le gérer, le maîtriser, l'habiter ainsi que Dieu l'a prévu pour nous? Je laisse la question en suspens. Le deuxième jour, Dieu crée le ciel et l'air que nous respirons en séparant les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Et comme le dit le psaume 19, le ciel, là aussi, raconte la gloire de Dieu. Une fois séparés, Dieu rassemble les eaux d'en bas en un seul lieu pour faire apparaître la terre sèche. C'est le troisième jour. Après avoir créé le temps et l'espace, Dieu crée une terre ferme sur laquelle l'humain pourra marcher et vivre. Ça m'a fait penser à la sortie d'Égypte, hein, quand l'Éternel sépare les eaux de la mer pour faire marcher son peuple à pied sec. Dieu crée les continents et les océans pour que les créatures y habitent et quelque part qu'elles partent à l'aventure. Et Dieu voit que cela est bon. La terre va produire de la verdure et des arbres fruitiers pour permettre à chacun de se nourrir. Et de plus, elle est créée capable de se reproduire puisque chaque arbre est porteur de sa propre semence. Alors peut-être c'est un récit qu'on connaît bien et sur lequel on ne s'attarde pas. On a peut-être l'impression que c'est un récit pour enfants. Mais je voudrais ce matin qu'on mesure la grâce de Dieu qui est contenue dans ce récit. Le fait que tout est sous contrôle et que Dieu a absolument tout prévu, dans le moindre détail. Parce que Dieu aurait très bien pu créer, comme c'est élaboré d'ailleurs dans les usines, hein, pour bientôt, demain, une sorte de fruit, d'aliment, qui à lui seul comporterait tout ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, on parle d'un comprimé, hein, bourré de tous les nutriments, avec des dosages précis, de tout ce qui est nécessaire à notre survie. Alors quand on aime manger, hein, c'est vraiment triste. Mais ce que nous dit ce récit de la création, c'est que Dieu a créé non seulement l'utile, mais aussi l'agréable. Il a créé la diversité, le surplus, la générosité, la beauté, sans raison en fait, à part pour nous faire plaisir. Pourquoi tant d'espèces différentes, que ce soit animales, végétales, sans parler des métaux, des pierres, des minéraux? Pourquoi tant de couleurs, tant de parfums? N'est-ce pas pour que nous y trouvions du plaisir, comme le dit l'Ecclésiaste par exemple? N'est-ce pas aussi pour nous éveiller à un certain sens de la gratuité, mais aussi de la générosité? Et en fait, je crois vraiment que l'observation de la création ne peut pas nous conduire à autre chose qu'à l'action de grâce et à l'adoration. Parce que la création est un acte d'amour, de bonté et de générosité de la part du Créateur. Ce sont tous ces traits de caractère-là que nous découvrons dans le récit de la création. De la même façon que les futurs parents aménagent toute la maison pour accueillir l'enfant qui va paraître, ou si on prend un autre exemple, l'oiseau qui fait son nid avec beaucoup de précision. Ainsi, Dieu prépare tout pour accueillir le vivant. Il plante le décor, non seulement pour que ce soit utile à notre survie, mais aussi pour que cela soit beau et agréable, et en fait pour que cela nous émerveille. Et je trouve qu'on ne s'émerveille pas assez. Je pense à un verset de l'Épître aux Romains, peut-être j'en parlerai dimanche prochain, qui dit que la divinité, la puissance et la perfection de Dieu se voient dans la création, se voient fort bien même, dit le texte, dans chacun de ses ouvrages. Et le texte poursuit en disant que ça rend l'homme inexcusable s'il ne glorifie pas Dieu en regardant la création. Il n'a pas besoin qu'on aille lui parler, lui faire une grande connaissance. Il devrait, rien qu'en regardant la nature ou son propre corps, comprendre que Dieu existe et qu'il est merveilleux. Alors voilà, ces trois premiers jours, Dieu a mis de l'ordre, il a séparé et nommé, et maintenant il va peupler sa création. Au quatrième jour, ce sont donc les luminaires qui servent à éclairer, qui servent aussi de signes et à compter le temps. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des créations. Contrairement à ce que pensaient la plupart des civilisations anciennes, hein, qui avaient le dieu soleil, le dieu lune, etc. Et ce n'est pas si vieux que ça, parce qu'aujourd'hui aussi, le culte des astres reste très présent dans notre société, dite moderne. Hein, parce qu'on a vraiment une culture du destin, de la fatalité, des horoscopes, des autres présages. Et si on reprend les lectures qui étaient prévues aujourd'hui, hein, liées à l'épiphanie et donc à la visite des mages, on voit bien dans ces récits que les mages ne considèrent pas les astres comme des divinités à adorer, mais bien comme des signes. Ce sont des astronomes et non des astrologues. Effectivement, c'est par une étoile qu'ils comprennent qu'un roi vient de naître, et cette étoile, nous dit l'Évangile, va les guider jusqu'à Jésus, le roi des rois. Alors, redisons que notre destin n'est pas écrit dans les astres. Les astres n'ont aucune influence d'aucune sorte sur notre vie et nos choix, parce qu'ils sont des créatures de Dieu, comme le reste, utiles et belles. Et là aussi, elles doivent même, je crois, nous émerveiller comme le reste. Je me demande qui n'est pas émerveillé en regardant un ciel étoilé. Mais les étoiles ne décident pas de notre vie. Dieu a créé l'être humain libre de ses choix. La fatalité n'est pas du tout une notion biblique. En revanche, la responsabilité, oui. Le cinquième jour, Dieu peuple les eaux qu'il a séparées et il crée donc tout ce qui vole et tout ce qui nage. Et là aussi, quelle diversité, quelle richesse. Tellement riche que, nous disent les scientifiques, il y a encore beaucoup d'espèces qu'on n'a pas découvertes. C'est assez incroyable quand on voit tout ce qui a déjà disparu. Les animaux sont appelés, comme les humains plus tard, à la fécondité et à multiplier. Ils sont eux aussi sujets. Dieu les bénit. Quand je dis ça, ça ne leur donne absolument pas le même statut que les humains, mais ça fait différer leur statut des astres ou des végétaux. Et rappelons-nous qu'à la sortie du déluge, Dieu n'a pas fait alliance avec l'humain seul, mais avec l'ensemble du vivant. On peut retrouver ça aussi dans l'évangile de Matthieu, hein, au chapitre 6, en rapport avec les inquiétudes, quand Jésus nous dit « Regardez finalement, les oiseaux du ciel, ils ne font pas de réserve, ils n'achètent rien et ils ont à manger. » Le sixième jour, Dieu peuple la terre avec les animaux d'abord et l'humain ensuite. Tout au long de la Bible, Dieu s'est servi des animaux, là aussi tantôt comme signe, tantôt pour parler aux hommes. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on fait des animaux. Il convient là aussi de donner aux animaux la place qui leur revient dans la création. Ni marchandise ou objet, ni égal, voire supérieur à l'homme. Hein. On a les deux extrêmes dans notre société. Il y a une troisième voie au milieu, qui est celle qui convient à la lecture de la parole. Au moment de créer l'humain, Dieu se concerte, hein, vous avez vu, à la lecture, il tient conseil avec lui-même. Et nous sentons bien là que la création de l'humain est particulière. Parce que l'humain est créé à l'image de Dieu, un sujet unique, capable de liberté, de relation, d'interaction, à la fois avec les animaux, avec ses semblables, mais aussi avec son Créateur. Il y aurait beaucoup à dire sur ce que signifie être image de Dieu, et d'ailleurs des centaines de livres ont été écrits à ce sujet. Je ne suis pas sûre que nous ayons encore tout compris d'ailleurs. Ça reste un domaine à creuser. Ce qui est sûr, c'est que l'humain est un être de relation comme Dieu l'est. Ça, c'est une des pistes, ce n'est pas la seule. D'ailleurs, l'humain est tout de suite créé mâle et femelle, en vis-à-vis. On n'est pas encore au récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais tout de suite, on a un vis-à-vis mâle et femelle. Et le texte biblique poursuit en disant « Dieu les bénit ». C'est un schéma qui est récurrent dans ce texte. Dieu crée et il bénit. Alors je vous fais un peu d'hébreu ce matin, mais entre les deux verbes « créer » et « bénir » en hébreu, il n'y a qu'une seule lettre de différence. Une lettre qui évoque à elle seule la multiplication. C'est intéressant parce qu'en français, bénir, ça veut dire dire du bien. En hébreu, le verbe, ça suggère plutôt l'abondance. Comme si bénir quelque chose, c'était dire que ça se multiplie. Dieu ne nous appelle donc pas à rester statique, mais à prendre en charge la création dans laquelle l'homme a été placé, à se multiplier, à être fécond, dans tous les domaines et pas seulement celui de la procréation. Là aussi, hein, première lecture, la fécondité, faire des bébés, oui, mais il n'y a pas que ça. On peut penser à la fructification des talents musicaux, artistiques, intellectuels, physiques, apporter le fruit de l'esprit, dont Paul parle aux Galates, on l'a relu tout à l'heure, à développer nos relations, nos connaissances, nos sujets d'études, etc. Et bien sûr aussi, à faire des enfants, à habiter et à cultiver la terre. Créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à lui ressembler. Et l'image parfaite de Dieu, c'est le Fils, Jésus-Christ. Et c'est en fait en nous mettant à son écoute, à sa suite, à son école, que nous allons apprendre chaque jour à lui ressembler. Et c'est l'Esprit Saint en nous qui poursuit cette œuvre par laquelle il nous rend semblable à lui. Heureusement que ça ne dépend pas que de nous. Ressembler à Dieu, c'est une vocation, mais c'est avant tout une grâce. Que ce Dieu créateur et parfait se soit proposé que nous lui ressemblions. Et c'est parce qu'il a été créé à l'image de Dieu que l'être humain est appelé justement à la domination. Une domination qui ne saurait s'exercer par la violence ou la contrainte, mais à l'image de la façon dont Dieu domine. Et là, il y a du chemin, il y a du boulot. Avec amour et responsabilité, dans la liberté, dans le respect, voilà comment Dieu domine les choses. Et là aussi, nous sommes appelés à lui ressembler. Dieu considère au soir du sixième jour que tout ce qu'il a fait est très bon. Et pourtant, la création n'est pas complète. Le chiffre 6 est symbole d'incomplétude alors que le 7 dit la totalité, la perfection. La création est un ensemble au sein duquel aucun élément n'est isolé, chacun y occupe la place qui lui est assignée. En tout cas, voilà le monde tel qu'il a été créé par Dieu, un monde dans lequel tout est sous contrôle. Mais à la fin du sixième jour, il manque donc un élément essentiel à la création de Dieu, c'est le repos. Et je voudrais insister là-dessus, parce que le repos, nous en disons bien des choses qui ne sont pas, je crois, ce que Dieu a voulu qu'on en dise. Le repos n'est pas vu comme une absence de travail, mais comme une œuvre, c'est-à-dire un travail. Se reposer, ce n'est donc pas ne rien faire, mais au contraire, c'est faire quelque chose, c'est se reposer. Et là, je crois qu'on a un petit peu de chemin à rattraper. Parce qu'aujourd'hui, au mieux, on considère le repos sous son axe utilitaire, en tout cas dans la société, à savoir qu'il a pour objet une plus grande efficacité dans le travail. Le repos est devenu un élément de rentabilité. Hein. Il faut qu'il se repose, sinon le lendemain, il ne va pas être très utile. À l'extrême inverse, on a des voix qui s'élèvent disant que le travail ne devrait pas exister carrément et qu'il faudrait passer sa vie à ne rien faire ou à profiter. Mais profiter de quoi ? Personne ne sait le dire. Et dans cette optique-là non plus, il n'est plus vraiment question de repos. L'approche de l'écriture est tout autre. Le sabbat, puisqu'il est question de cela, n'est pas une concession ressentie à la faiblesse de la nature humaine, afin que la personne puisse mieux travailler et être plus utile. Le sabbat a une valeur en tant que tel. Il est même, d'après ce récit, le but ultime de la création. Et Jésus dit un peu ça quand il dit « le sabbat a été fait pour l'homme ». Le septième jour, Dieu a pris le temps de regarder sa création, de l'observer, de la contempler, de s'en réjouir. L'humain est invité à s'inspirer de son attitude. Régulièrement, lui aussi a besoin de prendre le temps de l'arrêt, de la halte, pour examiner sa semaine et pour relire son histoire. Le sabbat est plus qu'une pause dans la semaine. Il est une prise de distance par rapport à l'agitation du quotidien, pour regarder, pour écouter, pour se souvenir. Quand est-ce que nous allons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous si nous courons tout le temps ? Quand est-ce que nous allons contempler l'Éternel si nous courons tout le temps ? La contemplation et le repos sont des valeurs qui sont évidemment à contre-courant de notre temps. Mais elles nous sont données comme des grâces et comme des bénédictions. Elles nous permettent de comprendre que notre valeur ne réside pas dans ce que nous produisons. Et là aussi, il est urgent que nous nous laissions enseigner ceci de nouveau. Parce que l'esprit ambiant vient nous polluer, vient parasiter notre compréhension du travail et du repos. Et on voit aujourd'hui tellement de chrétiens qui s'épuisent dans le travail et qui finissent souvent dans la dépression. À l'inverse de cela, le sabbat permet de sanctifier le temps, de tout remettre à Dieu et de nous réjouir en sa présence. Et l'arrêt des activités est en même temps un acte de foi qui rappelle que si la terre tourne, c'est par la souveraineté de Dieu et pas parce que moi j'ai fait. Hein. Quel orgueil de penser que c'est par notre travail que les choses fonctionnent. Ainsi nous pouvons nous reposer, confiants et conscients que Dieu est aux commandes et qu'il gère, que tout est sous contrôle. Une nouvelle année commence. Une année de grâce de la part de l'Éternel, une année qui nous rapproche toujours davantage de son retour, évidemment. Et au milieu de l'agitation ambiante, qui a déjà bien commencé, je trouve, Dieu, ce matin, vient parler à nos cœurs et nous rappeler que si nous sommes là, c'est parce qu'il l'a voulu, parce qu'il nous a créés et qu'il nous a bénis. Nous sommes appelés à marcher avec lui dans la proximité de sa parole, en étant attachés au Christ, et en cherchant à lui ressembler. Et notre travail, c'est d'être attaché au Christ, de veiller à rester attaché au Christ. Le reste se fait avec le secours de l'Esprit-Saint. Alors ne nous laissons pas gagner par l'anxiété, par l'inquiétude, par le stress, par la course après le temps, mais soyons au contraire des témoignages vivants qu'une autre voie est possible, une voie qui correspond à la création bonne de Dieu, même si aujourd'hui tout est entaché par la chute. Nous sommes aussi des êtres sauvés, renouvelés, régénérés, en croyant au Fils de Dieu qui s'est livré pour nous. Nous sommes des nouvelles créatures. Et nous ne devrions pas affronter le quotidien comme tout un chacun. Nous devrions habiter la création autrement, utiliser notre temps autrement, considérer notre travail comme une bénédiction et pas comme un fardeau. Et ne pas laisser prendre la place du repos dans nos vies par quoi que ce soit, du vrai repos. Parce que le repos, comme le travail, est une grâce qui nous permet de respirer, d'entrer dans le temps de Dieu, de nous réjouir en sa présence de tout notre travail, parce que Dieu mène tout à bonne fin. Chers amis, en ce début d'année, réjouissons-nous dans le Seigneur pour toute sa création, pour ses nombreuses bénédictions. Adorons-le, contemplons-le et souvenons-nous que tout est sous son contrôle. Amen.